Le roman d'un enfant, chapitre 21 à 30. Le commencement des devoirs, des leçons, des cahiers, des taches d'encre. Oh, quel assombrissement subi dans mon histoire! De tout cela, j'ai les souvenirs les plus platement maussades, les plus mortellement ennuyeux. Et si j'osais être tout à fait sincère, j'en dirais autant, je crois, des professeurs eux-mêmes. Oh mon Dieu, le premier qui me fit commencer le latin, Rosa, la rose, Cornu, la corne, Tonitru, le tonnerre. Un grand vieux voûté, mal tenu, triste à regarder comme une pluie de novembre. Il est mort à présent, le pauvre. Que la paix la plus sereine soit à son âme. Mais il me semblait le type réalisé du monsieur ratin de Topfer. Il en avait tout, même la verrue avec les trois poils au bout de son vieux nez et d'une complication de lignes inimaginable. Il était pour moi la personnification du dégoûtant, de l'horrible. Tous les jours, à midi précis, il arrivait. Je me sentais glacée par son coup de sonnette que j'aurais reconnu entre mille. Après son départ, j'assainissais moi-même la partie de ma table où ses coudes s'étaient posés, en l'essuyant avec des serviettes que j'allais ensuite, clandestinement, porter au linge sale. Et cette répulsion s'étendait ensuite aux livres, déjà peu attrayants par eux-mêmes, qu'il avait touchés. J'en arrachais certains feuillets, suspecte de contact trop prolongé avec ses mains. Toujours plein de taches d'encre, mes livres toujours salis, traînés, couverts de barbouillages, de dessins quelconques, comme on en fait quand l'esprit voyage ailleurs. Moi qui étais un enfant si soigneux et si propret en toutes choses, j'avais un tel dédain pour ces livres obligatoires que je devenais commun avec eux et mal élevé. Même, ce qui est le plus étonnant encore, tous mes scrupules m'abandonnaient quand il s'agissait de mes devoirs, toujours faits à la dernière minute, à la diable. Mon aversion pour le travail a été la première chose qui m'ait fait transiger avec ma conscience. Cependant, cela allait tout de même à peu près. Mes leçons sur lesquelles je jetais un coup d'œil à toute extrémité étaient presque sues. Et en général, M. Ratin écrivait bien, ou assez bien, sur le cahier de notes que je devais chaque soir présenter à mon père. Mais je crois que si lui ou les autres professeurs qui lui succédèrent avaient pu soupçonner la vérité, se doutaient qu'en dehors de leur présence, mon esprit ne s'arrêtait peut-être pas 5 minutes par jour à ce qu'ils m'enseignaient, d'indignation leur honnête cervelle aurait éclaté. Dans le courant de l'hiver qui suivit mon séjour à la côte de l'île, un grand événement traversa notre vie de famille. Le départ de mon frère pour sa première campagne. Il était, comme je l'ai dit, mon aîné d'environ 14 ans. Peut-être n'avais-je pas eu le temps d'assez le connaître, d'assez m'attacher à lui, car la vie de jeune homme l'avait pris de bonne heure, le séparant un peu de nous. Je n'allais guère dans sa chambre, où m'épouvantaient les quantités de gros livres épars sur les tables, l'odeur des cigares et les camarades à lui qu'on risquait d'y rencontrer, officiers ou étudiants. J'avais entendu aussi qu'il n'était pas toujours bien sage, qu'il se promenait quelquefois tard le soir, qu'il fallait le sermonner, et intérieurement je désapprouvais sa conduite. Mais l'approche de son départ doubla mon affection et me causa de vraies tristesses. Il allait en Polynésie, à Tahiti, juste au bout du monde, de l'autre côté de la terre, et son voyage devait durer 4 ans, ce qui représentait près de la moitié de ma propre vie, autant dire une durée presque sans fin. Avec un intérêt tout particulier, je suivais les préparatifs de cette longue campagne, ces malles ferrées qu'on arrangeait avec tant de précautions, ces galons dorés, ces broderies, son épée, qu'on enveloppait d'une quantité de papier mince avec des soins d'ensevelissement et qu'on enfermait ensuite comme des momies dans des boîtes de métal. Tout cela augmentait l'impression que j'avais déjà des lointains et des périls de ce long voyage. On sentait du reste qu'une mélancolie pesait sur la maison tout entière et devenait de plus en plus lourde à mesure qu'approchait le jour de la grande séparation. Nos repas étaient silencieux. Des recommandations seulement s'échangeaient et j'écoutais avec recueillement, sans rien dire. La veille de son départ, il s'amusa à me confier, ce qui m'honorait beaucoup, différents petits bibelots fragiles de sa cheminée, en me priant de les lui garder avec soin jusqu'à son retour. Puis il me fit cadeau d'un grand livre doré, qui était précisément un voyage en Polynésie, à nombreuses images. Et c'est le seul livre que j'ai aimé dans ma première enfance. Je le feuilletais tout de suite avec une curiosité empressée. En tête, une grande gravure représentait une femme brune, assez jolie, couronnée de roseaux et nonchalamment assise sous un palmier. On lisait au-dessous « Portrait de Sa Majesté Pomare IV, reine de Tahiti ». Plus loin, c'étaient deux belles créatures au bord de la mer, couronnées de fleurs et la poitrine nue, avec cette légende « Jeune fille tahitienne sur une plage ». Le jour du départ, à la dernière heure, les préparatifs étant terminés et les grandes malles fermées, nous étions tous dans le salon, réunis en silence comme pour un deuil. On lut un chapitre de la Bible et on fit la prière en famille. 4 années, et bientôt l'épaisseur du monde entre nous et celui qui allait partir. Je me rappelle surtout le visage de ma mère pendant toute cette scène d'adieu. Assise dans un fauteuil à côté de lui, elle avait gardé d'abord son sourire infiniment triste, son expression de confiance résignée, après la prière. Mais un changement que je n'avais pas prévu se fit tout à coup dans ses traits. Malgré elle, les larmes venaient. Et je n'avais jamais vu pleurer ma mère, et cela me fit une peine affreuse. Pendant les premiers jours qui suivirent, je conservais le sentiment triste du vide qu'il avait laissé. J'allais de temps en temps regarder sa chambre. Et quant aux différentes petites choses qu'il m'avait données ou confiées, elles étaient devenues tout à fait sacrées pour moi. Sur une map monde, je m'étais fait expliquer sa traversée qui devait durer environ 5 mois. Quant à son retour, il ne m'apparaissait qu'au fond d'un inimaginable et irréel avenir. Et ce qui me gâtait très étrangement cette perspective de le revoir, c'était de me dire que j'aurais 12 ou 13 ans, que je serais presque un grand garçon quand il reviendrait. À l'encontre de tous les autres enfants, de ceux d'aujourd'hui surtout, si pressés de devenir des espèces de petits hommes, j'avais déjà cette terreur de grandir, qui s'est encore accentuée un peu plus tard. Je le disais même, je l'écrivais, et quand on me demandait pourquoi, je répondais, ne sachant pas démêler cela au mieux. Il me semble que je m'ennuierai tant quand je serai grand. Je crois que c'est là un cas extrêmement singulier, unique peut-être, cet effroi de la vie dès le début. Je n'y voyais pas clair sur l'horizon de ma route. Je n'arrivais pas à me représenter l'avenir d'une façon quelconque. En avant de moi, rien que du noir impénétrable, un grand rideau de plomb tendu dans les ténèbres. Gâteau, gâteau, mes bons gâteaux tout chauds. Cela se chante sur un air naïvement plaintif, composé par une vieille marchande qui, pendant les 10 ou 15 premières années de ma vie, passa régulièrement sous nos fenêtres aux veillées d'hiver. Et quand je pense à ces veillées-là, il y a tout le temps ce petit refrain mélancolique, à la cantonade, dans les coulisses de ma mémoire. C'est surtout à des souvenirs de dimanche que la chanson des gâteaux tout chauds demeure le plus intimement liée. Car ces soirs-là, n'ayant pas de devoir à faire, je restais avec mes parents, dans le salon, qui était au rez-de-chaussée, sur la rue. Et alors, quand la bonne vieille passait sur le trottoir, au coup de 9 heures, lançant sa chanson sonore dans le silence des nuits de gelée, je me trouvais là tout prêt pour l'entendre. Elle annonçait le froid, comme les hirondelles annoncent le printemps. Après les fraîcheurs d'automne, la première fois qu'on entendait sa chanson, on disait « Voici l'hiver qui nous est arrivé ». Le salon de Séveillé, tel que je l'ai connu alors, était grand et me paraissait immense. Très simple, mais avec un certain bon goût d'arrangement. Les murs et les bois des portes, bruns, avec des filets d'or mat, des meubles de velours rouge qui devaient dater de Louis-Philippe, des portraits de famille, dans des cadres austères, noirs et or, sur la cheminée des bronzes d'aspect grave, sur la table du milieu, à une place d'honneur, une grosse Bible du XVIe siècle, relique vénérable d'ancêtres huguenots persécutés pour leur foi. Et des fleurs, toujours des corbeilles et des vases de fleurs, à une époque où cependant la mode n'en était pas encore répandue comme aujourd'hui. Après dîner, c'était pour moi un instant délicieux que celui où on venait s'installer là, en quittant la salle à manger. Tout avait un bon air de paix et de confort. Et quand toute la famille était assise, grand-mère et tante, en cercle, je commençais par gambader au milieu, sur le tapis rouge, dans ma joie bruyante de me sentir entourée. Et en songeant avec impatience à ces petits jeux auxquels on allait jouer pour moi tout à l'heure. Nos voisins, les dés, venaient tous les dimanches passer la soirée avec nous. C'était notre tradition dans les deux familles, liée par une de ces anciennes amitiés de province qui remontent à des générations précédentes et se transmettent comme un bien héréditaire. Vers 8 heures, quand je reconnaissais leur coup de sonnette, je sautais de plaisir et je ne pouvais me tenir de prendre ma course pour aller au-devant d'eux à la porte de la rue. Surtout à cause de Lucette, ma grande amie, qui venait aussi avec ses parents, cela va sans dire. Hélas, avec quel recueillement triste je les passe en revue, ces figures aimées ou vénérées, bénies, qui m'entouraient ainsi les dimanches soirs. La plupart ont disparu, et leurs images que je voudrais retenir malgré moi se ternissent, sans brume, vont s'en aller aussi. Donc on commençait les petits jeux pour me faire plaisir, à moi, seul enfant. On jouait au mariage, à la toilette à madame, au chevalier cornu, à la belle bergère, au furet. Tout le monde consentait à s'en mêler, y compris les personnes les plus âgées. Grand-tante Berthe, la doyenne, s'y montrait même la plus irrésistiblement drôle. Et tout à coup je faisais silence, je m'arrêtais attentif. Quand dans le lointain j'entendais « Gâteau, gâteau, mes bons gâteaux tout chauds !» Cela se rapprochait rapidement, car la chanteuse trottait, trottait menue mais vite. Presque aussitôt elle était sous nos fenêtres, répétant de tout près, à pleine voix fêlée, sa continuelle chanson. Et c'était mon grand amusement. Non point d'en faire acheter de ces pauvres gâteaux, car ils étaient un peu grossiers et je ne les aimais guère. Mais de courir moi-même, quand on me le permettait, sur le pas de la porte, accompagnée d'une tante de bonne volonté pour arrêter au passage la marchande. Avec une révérence, elle se présentait, la bonne vieille, fière d'être appelée, et posait un pied sur les marches du seuil. Son costume propre était rehaussé toujours de fausses manches blanches. Puis, tandis qu'elle découvrait son panier, je jetais longuement au dehors mon regard d'oiseau en cage, le plus loin possible dans la rue froide et déserte. Et c'était là tout le charme de la chose. Respirer une bouffée d'air glacé, prendre un aperçu du grand noir extérieur, et après rentrer, toujours courant, dans le salon chaud et confortable. Tandis que le refrain monotone s'éloignait, s'en allait se perdre, chaque soir du même côté, dans les mêmes rues basses avoisinant le port et les remparts. Le trajet de cette marchande était invariable. Et je la suivais par la pensée avec un intérêt singulier, aussi longtemps que sa chanson, de minute en minute reprise, s'entendait encore. dans cette attention que je lui prêtais, il y avait de la pitié pour elle, pauvre vieille ainsi errante toutes les nuits. Mais il y avait aussi un autre sentiment qui s'ébauchait. Oh, si confus encore, si vague, que je vais lui donner trop d'importance, rien qu'en l'indiquant de la façon la plus légère. Voici. J'avais une sorte de curiosité inquiète pour ces quartiers bas, vers lesquels la marchande se rendait si bravement et où on ne me conduisait jamais. Vieille rue aperçue de loin, solitaire le jour, mais où, de temps immémorial, les matelots faisaient leur tapage les soirs de fête, en voyant quelquefois le bruit de leurs chants jusqu'à nous. Qu'est-ce qui pouvait se passer là-bas? Comment étaient ces gaietés brutales qui se traduisaient par des cris? À quoi donc s'amusaient-ils, ces gens revenus de la mer et des lointains pays où le soleil brûle? Quelle vie plus rude, plus simple et plus libre était la leur? Évidemment, pour mettre au point tout ce que je viens de dire, il faudrait l'atténuer beaucoup, l'envelopper comme d'un voile blanc. Mais déjà, le germe d'un trouble, d'une aspiration vers je ne sais quoi d'autre et d'inconnu, était planté dans ma petite tête. En rentrant avec mes gâteaux à la main dans ce salon où on parlait si bas, il m'arrivait, pendant un instant d'une durée à peine appréciable, de me sentir étioli et captif. À 9h30, rarement plus tard à cause de moi, on servait le thé et les très minces tartines. Beurré d'un beurre exquis et taillé avec ces soins qu'on n'a plus le temps d'apporter à quoi que ce soit de nos jours. Ensuite, vers 11h, après la lecture de la Bible et la prière, on allait se coucher. Dans mon petit lit blanc, j'étais plus agitée le dimanche que les autres jours. D'abord, il y avait la perspective de M. Ratin, qui demain allait reparaître, plus pénible à voir après ce temps de répit. Je regrettais que ce jour de repos fût déjà fini, fini si vite, et je m'ennuyais par avance de ces devoirs qu'il faudrait faire pendant toute une semaine avant d'atteindre le dimanche suivant. Puis quelquefois, dans le lointain, une bande de matelots passait en chantant, et alors mes idées changeaient de cours, s'en allaient vers les colonies ou les navires. Il me prenait même une sorte d'envie imprécise et sourde, l'attente, si j'ose employer ce mot, de courir, moi aussi dehors, à l'amusante aventure, dans l'air vif des nuits d'hiver, ou au grand soleil des ports exotiques, et, à tue-tête, comme eux, de chanter la simple joie de vivre. Alors j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel et qui disait à haute voix « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» En plus de la lecture du soir faite en famille, chaque matin dans mon lit, je lisais un chapitre de la Bible avant de me lever. Ma Bible était petite et d'un caractère très fin. Il y avait entre les pages des fleurs séchées auxquelles je tenais beaucoup. Surtout une branche de pied d'alouette rose, magnifique, qui avait le don de me rappeler très nettement les gleux de l'île d'Oléron, où je les avais cueillis. Je ne sais pas comment cela se dit en français, des gleux. Ce sont les tiges qui restent des blés moissonnés. Ce sont ces champs de paille jaune tondus court, que dessèche et dore le soleil d'août. Au-dessus des gleux de l'île, habités par les sauterelles, remontent et refleurissent très haut de tardifs bleuets et surtout des pieds d'alouette, blancs, violets ou roses. Donc les matins d'hiver, dans mon lit, avant de commencer ma lecture, je regardais toujours cette branche de fleurs d'une teinte encore fraîche qui me donnait la vision et le regret des champs d'Oléron, chauffés au soleil d'été. Alors j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel et qui disait à haute voix « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» Puis le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tomba du ciel en la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Quand je lisais ma Bible seule, ayant le choix des passages, C'était toujours la jeunesse grandiose, la séparation de la lumière et des ténèbres, ou bien les visions et les émerveillements apocalyptiques. J'étais fascinée par toute cette poésie de rêve et de terreur qui n'a jamais été égalée, que je sache, dans aucun livre humain. La bête à cette tête, les signes du ciel, le son de la dernière trompette, ces épouvantes m'étaient familières. Elles hantaient mon imagination et la charmaient. Il y avait un livre du siècle dernier, relique de mes ascendants huguenots, dans lequel je voyais vivre ces choses. Une histoire de la Bible, avec d'étranges images apocalyptiques, où tous les lointains étaient noirs. Ma grand-mère maternelle gardait précieusement dans un placard de sa chambre ce livre qu'elle avait rapporté de Lille. Et comme j'avais conservé l'habitude de monter mélancoliquement chez elle, l'hiver, dès que je voyais tomber la nuit, c'était presque toujours à ces heures de clarté indécise que je lui demandais de me le prêter pour le feuilleter sur ses genoux. Jusqu'au dernier crépuscule, je tournais les feuillets jaunis. Je regardais les vols d'anges aux grandes ailes rapides, les rideaux de ténèbres présageant les fins de monde, les ciels plus noirs que la terre, et au milieu des amoncellements de nuées, le triangle simple et terrible qui signifie Jéhovah. L'Égypte antique, appelée aussi à exercer sur moi un peu plus tard une sorte de fascination bien mystérieuse, je la retrouvais pour la première fois, sans hésitation ni étonnement, dans une gravure du magasin pittoresque. Je saluais comme d'anciennes connaissances deux dieux à tête d'épervier qui étaient là, inscrits de profil sur une pierre, de chaque côté d'un étrange zodiaque. Et bien que ce fût par une journée sombre, il me vint, j'en suis très sûre, l'impression subite d'un chaud et morne soleil. Après le départ de mon frère pendant l'hiver qui suivit, je passais beaucoup de mes heures de récréation dans sa chambre, à peindre les images du voyage en Polynésie qu'il m'avait donné. Avec un soin extrême, je coloriais d'abord les branches de fleurs, les groupes d'oiseaux. Le tour des bons hommes vint ensuite. Quant à ces deux jeunes filles tahitiennes au bord de la mer, pour lesquelles le dessinateur s'était inspiré de nymphes quelconques, je les fis blanches. Oh, blanches et roses, comme les plus suaves poupées, et je les trouvais ravissantes ainsi. L'avenir se réservait de m'apprendre que leur teint est différent et leur charme tout autre. Du reste, mon sentiment sur la beauté s'est bien modifié depuis cette époque, et on m'eut beaucoup étonnée alors en m'apprenant quelle sorte de visage j'arriverais à trouver charmant dans la suite imprévue de ma vie. Mais tous les enfants ont sous ce rapport le même idéal, qui change ensuite dès qu'ils se font hommes. À eux qui admirent en toute pureté naïve, il faut des traits doucement réguliers et des teints fraîchement roses. Plus tard, leur manière d'apprécier varie suivant leur culture d'esprit et surtout au gré de leur sens. Je ne sais plus très bien à quelle époque je fondais mon musée qui m'occupa si longtemps. Un peu au-dessus de la chambre de ma grand-tante Berthe, était un petit galetas isolé dont j'avais pris possession complète. Le charme de ce lieu lui venait de sa fenêtre, tenant aussi de très haut sur le couchant, sur les vieux arbres du rempart. Sur les prairies lointaines, où des points roux, semés çà et là, au milieu du vert uniforme, indiquaient des bœufs et des vaches, des troupeaux errants. J'avais obtenu qu'on me fît tapisser ce galetas, d'un papier chamois rosé qui est encore. Qu'on m'y plaça des étagères, des vitrines. J'y installais mes papillons qui me semblaient des spécimens très précieux. J'y rangeais des nids d'oiseaux trouvés dans les bois de la Limoise, des coquilles ramassées sur les plages de l'île et d'autres, des colonies rapportées autrefois par des parents inconnus et dénichées au grenier au fond de vieux coffres où elles sommeillaient depuis des années sous de la poussière. Dans ce domaine, je passais des heures seule, tranquille, en contemplation, devant des nacres exotiques, rêvant au pays d'où elles étaient venues, imaginant d'étranges rivages. Un bon vieux grand-oncle, parent éloigné, mais qui m'aimait bien, encourageait ses amusements. Il était médecin et ayant, dans sa jeunesse, longtemps habité la côte d'Afrique, il possédait un cabinet d'histoire naturelle, plus remarquable que bien des musées de ville. D'étonnantes choses étaient là, qui me captivaient. Des coquilles rares et singulières, des amulettes, des armes encore imprégnées de ces senteurs exotiques dont je me suis saturée plus tard, d'introuvables papillons sous des vitres. Il demeurait dans notre voisinage et je le visitais souvent. Pour arriver à son cabinet, il fallait traverser son jardin où fleurissaient des daturas, des cactus, et où se tenait un perroquet gris du Gabon, qui disait des choses en langue nègre. Et quand le vieil oncle me parlait du Sénégal, de Gorée, de la Guinée, je me grisais de la musique de ses mots, pressentant déjà quelque chose de la lourdeur triste du pays noir. Il avait prédit, mon pauvre oncle, que je deviendrais un savant naturaliste. Et il se trompait bien, comme du reste tant d'autres qui pronostiquèrent de mon avenir. Il y était moins que personne. Il ne comprenait pas que mon penchant pour l'histoire naturelle ne représentait qu'une déviation passagère de mes petites idées encore flottantes, que les froides vitrines, les classifications arides, la science morte n'avaient rien qui pût longtemps me retenir. Non. Ce qui m'attirait si puissamment était derrière ces choses glacées, derrière et au-delà. Était la nature elle-même, effrayante et aux mille visages, l'ensemble inconnu des bêtes et des forêts. Cependant, je passais aussi de longues heures, hélas, à faire soi-disant mes devoirs. Topfer, qui a été le seul véritable poète des écoliers, en général si incompris, les divisait en trois groupes. Premièrement, ceux qui sont dans les collèges. Deuxièmement, ceux qui travaillent chez eux, leurs fenêtres donnant sur quelques fonds de cour sombres avec un vieux figuier triste. Troisièmement, ceux qui, travaillant aussi au logis, ont une petite chambre claire sur la rue. J'appartenais à cette dernière catégorie, que Topfer considère comme privilégié, et devant fournir plus tard les hommes les plus gais. Ma chambre d'enfant était au premier sur la rue. Rideaux blancs, tapisserie verte semée de bouquets de roses blanches, près de la fenêtre, mon bureau de travail, et au-dessus, ma bibliothèque, toujours très délaissée. Tant que duraient les beaux jours, cette fenêtre était ouverte. Les persiennes demi-closes, pour me permettre d'être constamment à regarder dehors sans que mes flâneries fussent remarquées ni dénoncées par quelque voisin malencontreux. Du matin au soir, je contemplais donc ce bout de rue tranquille, ensoleillé entre ces blanches maisonnettes de province et s'en allant finir là-bas aux vieux arbres du rempart. Les rares passants, bientôt tous connus de visage, les différents chats du quartier, rôdant aux portes ou sur les toits, les martinets tourbillonnant dans l'air chaud, et les hirondelles rasant la poussière du pavé. Oh, que de temps j'ai passé à cette fenêtre, l'esprit en vague rêverie du moineau prisonnier, tandis que mon cahier taché d'encre restait ouvert aux premiers mots d'un thème qui n'aboutissait pas, d'une narration qui ne voulait pas sortir. L'époque des niches aux passants ne tarda pas à survenir. C'était du reste la conséquence fatale de ce désœuvrement ennuyé et souvent traversé de remords. Ces niches, je dois l'avouer que Lucette, ma grande amie, y trempait quelquefois très volontiers. Déjà jeune fille de 16 ou 17 ans, elle redevenait aussi enfant que moi-même à certaines heures. « Tu sais, tu ne le diras pas au moins. » me recommandait-elle avec un clignement impayable de ses yeux si fins. Et je le dis à présent que les années ont passé, que l'herbe d'une vingtaine d'étés a fleuri sur sa tombe. Cela consista d'abord à préparer de gentils paquets, bien enveloppés de papier blanc et bien attachés de faveurs roses. Dedans, on mettait des queues de cerises, des noyaux de prunes, de petites vilainies quelconques. On jetait le tout sur le pavé et on se postait derrière les persiennes pour voir qui le ramasserait. Ensuite, cela devint des lettres. Des lettres absolument saugrenues et incohérentes, avec dessins à l'appui, intercalés dans le texte, qu'on adressait aux habitants les plus drôlatiques du voisinage et qu'on déposait sournoisement sur le trottoir à l'aide d'un fil, aux heures où ils avaient coutume de passer. Oh, les fous rires que nous avions en composant ces pièces de style! D'ailleurs, depuis Lucette, je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui j'ai pu rire d'aussi bon cœur. Et presque toujours à propos de choses dont la drôlerie est à peine saisissable n'eût déridé aucun autre que nous-mêmes. En plus de notre bonne amitié de petit frère à grande sœur, il y avait cela entre nous. Un même tour de moquerie légère, un accord complet dans nos sentiments de l'incohérence et du ridicule. Aussi lui trouvais-je plus d'esprit qu'à personne. Et sur un seul mot échangé, nous rions souvent ensemble, aux dépens de notre prochain ou de nous-mêmes, en fusée subite, jusqu'à en être pâmés, jusqu'à nous en jeter par terre. Tout cela ne cadrait guère, je le reconnais, avec les sombres rêveries apocalyptiques et les graves controverses religieuses. Mais j'étais déjà plein de contradictions à cette époque. Pauvre petite Lucette, ou Luçon. Luçon était un nom propre masculin singulier que je lui avais donné. Je disais « mon bon Luçon ». Pauvre petite Lucette. Elle était pourtant un de mes professeurs, elle aussi. Mais un professeur, par exemple, qui ne me causait ni dégoût, ni effroi. Comme M. Ratin, elle avait un cahier de notes sur lequel elle inscrivait des biens ou des très biens, et que j'étais tenue de montrer à mes parents le soir. Car j'ai négligé de dire plus tôt qu'elle s'était amusée à m'apprendre le piano, de très bonne heure, en cachette, en surprise, pour me faire exécuter un soir, à l'occasion d'une solennité de famille, l'air du Petit Suisse et l'air du Rocher de Saint-Malo. Il en était résulté qu'on l'avait prié de continuer son œuvre si bien commencée et que mon éducation musicale resta entre ses mains jusqu'à l'époque de Chopin et de Liszt. La peinture et la musique étaient les deux seules choses que je travaillais un peu. La peinture m'était enseignée par ma sœur, mais je ne me rappelle plus mes commencements, tant ils furent prématurés. Il me semble que de tout temps j'ai su, avec des crayons ou des pinceaux, rendre à peu près sur le papier les petites fantaisies de mon imagination. Chez grand-mère, au fond de ce placard aux reliques où se tenait le livre des grandes terreurs d'Apocalypse, l'histoire de la Bible, il y avait aussi plusieurs autres choses vénérables. D'abord un vieux psautier, infiniment petit entre ses fermoirs d'argent, comme un livre de poupée, et qui avait dû être une merveille typographique de son époque. Il était aussi en miniature, me disait-on, pour pouvoir se dissimuler sans peine. À l'époque des persécutions, des ancêtres à nous avaient dû souvent le porter, caché sous leurs vêtements. Il y avait surtout, dans un carton, une liasse de lettres sur parchemin timbrées de Leyde ou d'Amsterdam, de 1702 à 1710, et portant de larges cachets de cire dont le chiffre était surmonté d'une couronne de comte. Lettres d'aïeux huguenots qui, à la révocation de l'édit de Nantes, avaient quitté leur terre, leurs amis, leur patrie, tout au monde pour ne pas abjurer. Ils écrivaient à un vieux grand-père, trop âgé alors pour prendre le chemin de l'exil, et qui avait pu, je ne sais comment, rester ignoré dans un coin de l'île de Léron. Ils étaient soumis et respectueux envers lui, comme on ne l'est plus de nos jours. Ils lui demandaient conseil ou permission pour tout, même pour porter certaines perruques dont la mode venait à Amsterdam en ce temps-là. puis ils comptaient leurs affaires, sans un murmure jamais, avec une résignation évangélique. Leurs biens étant confisqués, ils étaient obligés de s'occuper de commerce pour vivre là-bas. Et ils espéraient, disaient-ils, avec l'aide de Dieu, avoir toujours du pain pour leurs enfants. En plus du respect qu'elles m'inspiraient, ces lettres avaient pour moi le charme des choses très anciennes. Je trouvais si étrange de pénétrer ainsi dans cette activité d'autrefois, dans cette vie intime, déjà vieille de plus d'un siècle et demi. Et puis, en les lisant, une indignation me venait au cœur contre l'Église romaine, contre la Rome papale, souveraine de ces siècles passés et si clairement désignée. À mes yeux, du moins, dans cette étonnante prophétie apocalyptique. Et la bête est une ville, et ses sept têtes sont sept collines sur lesquelles la ville est assise. Grand-mère, toujours austère et droite dans sa robe noire, ainsi précisément que l'on est convenu de se représenter les vieilles dames huguenotes, avait été inquiétée, elle aussi, pour sa foi, sous la Restauration. Et bien qu'elle ne murmurât jamais, elle non plus, on sentait qu'elle gardait de cette époque un souvenir oppressant. De plus, dans l'île, à l'ombre d'un petit bois enclos de murs attenant à notre ancienne habitation familiale, on m'avait montré la place où dormaient plusieurs de mes ancêtres, exclus des cimetières pour avoir voulu mourir dans la religion protestante. Comment ne pas être fidèle après tout ce passé? Il est bien certain que si l'Inquisition avait été recommencée, j'aurais subi le martyre joyeusement comme un petit illuminé. Ma foi était même une foi d'avant-garde, et j'étais bien loin de la résignation de mes ascendants. Malgré mon éloignement pour la lecture, on me voyait souvent plongé dans des livres de controverses religieuses. Je savais par cœur des passages des pères, des décisions des premiers conciles. J'aurais pu discuter sur les dogmes comme un docteur. J'étais retors en argument contre le papisme. Et cependant, un froid commençait par instant à me prendre. Au temple surtout, du gris blafard descendait déjà autour de moi. L'ennui de certaines prédications du dimanche, le vide de ces prières, préparées à l'avance, dites avec l'onction convenue et les gestes qu'il faut, et l'indifférence de ces gens dimanchés qui venaient écouter. Comme j'ai senti de bonheur, et avec un chagrin profond, une déception cruelle, l'écœurant formalisme de tout cela. L'aspect même du temple me déconcertait, un temple de ville, neuf alors avec une intention d'être joli, sans oser l'être trop. Je me rappelle surtout certains petits ornements des murs que j'avais pris en abomination, qui me glaçaient à regarder. C'était un peu de ce sentiment que j'ai éprouvé plus tard à l'excès dans ces temples de Paris, visant à l'élégance, et où l'on trouve aux portes des huissiers avec des nœuds de ruban sur l'épaule. Oh, les assemblées des Cévennes! Oh, les pasteurs du désert! De si petites choses, évidemment, ne pouvaient pas ébranler beaucoup mes croyances, qui semblaient solides comme un château bâti sur un roc. Mais elles ont causé la première imperceptible fissure par laquelle, goutte à goutte, une eau glacée a commencé d'entrer. Où je retrouvais encore le vrai recueillement, la vraie et douce paix de la maison du Seigneur, c'était dans le vieux temple de Saint-Pierre de Léron. Mon aïeul Samuel, au temps des persécutions, avait dû y prier souvent. Puis ma mère y était venue pendant toute sa jeunesse. Et j'aimais aussi ces petits temples de village, où nous allions quelquefois les dimanches d'été, bien antiques pour la plupart, avec leurs murs tout simples, passés à la chaux blanche, bâtis n'importe où, au coin d'un champ de blé, des fleurettes sauvages alentour, ou bien retirées au fond de quelque enclos, au bout d'une vieille allée d'arbres. Les catholiques n'ont rien qui dépasse en charme religieux ces humbles petits sanctuaires de nos côtes protestantes, même pas leurs plus exquises chapelles de granit, perdues au fond des bois bretons, que j'ai tant aimé plus tard. Je voulais toujours être pasteur, assurément. D'abord, il me semblait que ce fût mon devoir. Je l'avais dit. Je l'avais promis dans mes prières. Pouvais-je à présent reprendre ma parole donnée? Mais quand je cherchais dans ma petite tête à arranger cet avenir, de plus en plus voilé pour moi d'impénétrables ténèbres, ma pensée se portait de préférence sur quelque église un peu isolée du monde, où la foi de mon troupeau serait encore naïve, où mon temple modeste serait consacré par tout un passé de prières. Dans l'île de Léron, par exemple. Dans l'île de Léron? Oui, c'était là, au milieu des souvenirs de mes aïeux huguenots, que j'entrevoyais plus facilement et avec moins d'effroi ma vie sacrifiée à la cause du Seigneur. Mon frère était arrivé dans l'île délicieuse. Sa première lettre, datée de là-bas, très longue, sur un papier mince et léger, jauni par la mer, avait mis 4 mois à nous parvenir. Elle fut un événement dans notre vie de famille. Je me rappelle encore, pendant que mon père et ma mère la décachetaient en bas, avec quelle joyeuse vitesse je montais 4 à 4 au second étage pour appeler dans leur chambre ma grand-mère et mes tantes. Sous l'enveloppe si remplie, toute couverte de timbres d'Amérique, il y avait un billet particulier pour moi. Et en le dépliant, j'y trouvais une fleur séchée, sorte d'étoile à 5 feuilles d'une nuance pâle, encore rose. Cette fleur, me disait mon frère, avait poussé et s'était épanouie près de sa fenêtre, à l'intérieur même de sa maison tahitienne, qu'envahissaient les verdures admirables de là-bas. Oh ! Avec quelle émotion singulière ! Quelle avidité, si je puis dire ainsi ! Je la regardais et la touchais, cette pervenche, qui était une petite partie encore colorée, encore presque vivante, de cette nature si lointaine et si inconnue. Ensuite, je la serrai, avec tant de précaution que je la possède encore. Et après bien des années, quand je vins faire un pèlerinage à cette case que mon frère avait habitée sur l'autre versant du monde, je vis qu'en effet le jardin ombreux d'alentour était tout rose de ces pervenches-là, qu'elles franchissaient même le seuil de la porte et entraient pour fleurir dans l'intérieur abandonné.